Aló, Daniel. Hola, habla Pedro Tapia. Ici, c'est Pedro Tapia de Lyon. Écoute, j'appelle juste pour dire que dans un pays machiste à mort comme le Chili, une femme, Michelle Bachelet, a été élue présidente de la République. C'est bizarre, hein? Dans des pays machistes, on élit des femmes. Et dans des pays comme la France, où on n'est pas machiste, les femmes se sont traitées de tous les noms. Enfin, pas grave. Ce qui est important, c'est qu'une femme socialiste qui a été emprisonnée, torturée, qui a perdu son père dans le, entre les mains de la soldadesque de Pinochet, elle a réussi à remonter sous ce chemin immense qui est celui de l'exil, de la perte de son père, etc., pour devenir la première femme présidente de la République du Chili. C'est magnifique. Bon, moi, je suis content pour elle, je suis content pour les Chiliens, je suis content pour nous tous, parce que les femmes, petit à petit, avancent et font une place. Bientôt, il y aura une autre femme au Liberia, et en Finlande, enfin, tu vois, et pourquoi pas en France. Oh, ben ici, on n'est pas machiste, mais... Allez, bon courage à vous tous, et aujourd'hui, on a un énorme sourire. Vraiment, ça valait la peine. Allez, à bientôt. Ciao.
Ouais, salut, Daniel. Là, nous sommes le 16 janvier. J'ai entendu sur ton répondeur un gars au fort accent espagnol parler de cette magnifique élection, de cette magnifique femme au Chili. Et je pense à l'un de mes oncles, décédé maintenant, qui avait fui le franquisme, était parti pour Santiago. Et puis je pense aussi à Pablo Neruda, à Salvador Allende et à tous les autres. Voilà, c'était Isabelle de Beauvais. Merci, au revoir.
Une fois de plus, de bien bons reportages, Daniel. Et tu nous fais découvrir l'existence de son confetti de l'Empire français. Mais quelques questions subsistent. Pourquoi, en 76, la France n'a pas considéré la globalité de l'archipel pour le résultat du référendum ? Pourquoi Mayotte n'a pas voulu de son indépendance comme les îles voisines ? Pourquoi la France n'a pas respecté le règlement de l'ONU en opérant une scission dans cette entité géographique qu'est l'archipel des Comores ? Eh bien, le gouvernement de Giscard avait fait le nécessaire pour que les Mahorais ne souhaitent pas se retrouver sous le giron de la Grande Comore. Ainsi, il n'y avait plus qu'une île à entretenir en cas de fermeture du canal de Suez pour que les pétroliers puissent avoir un port à disposition dans le canal du Mozambique. Pourquoi Anjouan a proclamé en 2000 sa scission avec la République des Comores ? Pourquoi Maurice et les Seychelles, elles aussi dans l'océan Indien, qui ont obtenu leur indépendance également dans les années 70, ne sont-elles pas dans une telle misère ? Qu'est-il fait des millions d'euros d'aide annuelle de la France et de l'Europe à la République islamique des Comores ? Comment se fait-il qu'il y ait 250 000 Comoriens qui vivent en France ? À 200 euros par personne et à raison de 30 clandestins par barque, cela représente tout de même 6 000 euros pour une traversée de 70 km. Ce qui n'a pas été dit, c'est que ce trafic est également entretenu par des Mahorais. D'ailleurs, les Mahorais qui manifestent pour que les Comoriens ne puissent avoir accès à l'hôpital et que leurs enfants ne puissent être scolarisés sont également ceux qui entretiennent l'arrivée massive de sans-papiers en leur fournissant du travail sous-payé. Car autant il est tout à fait humain de vouloir fuir la misère, autant l'arrivée d'enjoinés par milliers ne se produirait pas s'il n'y avait pas à Mayotte toute une population favorisant leur venue et profitant de leur dénuement en les exploitant. Et quel rapport entretient la France avec Mayotte ? Et inversement, quels sont les rapports entre Mahorais et métropolitains ?
Eh bien, on croyait avoir répondu à une partie de ces questions, mais non, on voit sur dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, sur le répondeur, des questions encore nombreuses sur Mayotte, les Comores. Aujourd'hui, dernière de cette balade à Mayotte. Demain, on ira dans les Comores pour finir cette série, j'espère, en beauté. En tout cas, aujourd'hui, on reste encore à Mayotte avec, effectivement, toutes ces questions. Je ne suis pas sûr qu'on ait des réponses à toutes ces questions, mais je pense qu'on a contribué à éclairer un petit peu, du moins à comprendre et à faire comprendre ce qui se passe dans ce lointain confetti. Donc aujourd'hui, dernière à Mayotte. Et puis, par ailleurs, des bonnes nouvelles sur le front des repères des amis de la base. Si j'y suis, il y a un nouveau repère qui s'est créé à Lille. C'est où? Ah, c'est dans un bistrot tabac qui s'appelle Les Comtes des Flandres. C'est 51 rue de la Monnaie à Lille. Et le prochain rendez-vous des amis de la basse suisse, ce sera le 6 février. Donc vous avez le temps de vous préparer. Et ce sera comme ça tous les premiers lundis du mois à 20h. Donc la prochaine fois, ce sera le 6 février, la naissance d'un repère. Donc, balade, Mayotte, fin après les messages qui suivent au 01 56 40 37 37.
La première rencontre des repères des amis de là-bas, si j'y suis, de 7, a eu lieu le lundi 16 janvier au bistrot des Halles. La prochaine rencontre du repère des amis de là-bas, si j'y suis, de 7, a lieu le 6 février à 19h au bistrot des Halles. Et ce sera sur le thème de « Être jeune à sec et ailleurs ». Merci.
Bonjour. Pendant que nous vapons à nos occupations quotidiennes, ou que du fond de notre cellule, de votre cellule, vous attendez le jour de votre libération, d'autres construisent en ce moment même, dans le plus grand silence de tous, les murs de la première des 7 prisons pour enfants de 13 à 18 ans prévues en France par le gouvernement. Ce sont bien des prisons que l'on construit pour ces jeunes. 60 places par région, 7,420 places au total. Je vous devine au mieux pensant enfin des conditions d'accueil décentes pour ces jeunes. Eh bien, il faut savoir qu'à Toulouse existe une prison toute neuve avec un quartier pour mineurs utilisé depuis 3 ans, utilisé à 30% de ses capacités. Il faut savoir que les professionnels encadrant les jeunes en difficulté savent que ces prisons régionales condamnent les familles des détenus à renoncer à leur rendre visite. Trop loin, trop cher, trop difficile d'accès. Il faut savoir que ces jeunes seront pris en charge du lever au coucher, activités sportives et scolaires encadrées et obligatoires. Il faut savoir que les dernières maisons de rééducation ont été fermées en 1979 par Alain Perfit. Il faut savoir que le coût prévu de construction de ces prisons sera de 12 millions d'euros, à multiplier par 7, soit près de 90 millions d'euros, et que pendant ce temps, des classes ferment, des associations se demandent comment poursuivre leur activité. Et le secteur associatif chargé de la prise en charge de l'enfance en danger et des mineurs délinquants subit une réduction de 30% de ses financements. Il faut savoir que la France était fière d'être le pays des droits de l'homme et que sa devise est toujours liberté, égalité, fraternité. Et que la France construit des prisons pour enfants mineurs de 13 à 18 ans dans la plus grande indifférence. Je pourrais continuer encore et toujours, j'attends que les adultes disent non au nom de leurs enfants.
J'appelle pour donner des nouvelles de la première nîmoise. On a bien tchatché. On a été un peu surpris par le nombre des amis de là-bas, si j'y suis, à s'être retrouvés donc au Ad Hoc Café. On était peut-être environ 70 personnes. Alors du coup, le patron du bar, Serge, qui est très sympa, nous a passé un micro. Et c'était un peu impressionnant, mais en même temps c'était rigolo. En tout cas, ça a permis qu'on s'entende, qu'on parle un petit peu à tour de rôle pour que tout le monde puisse entendre ce qu'on avait à se dire. Bien sûr, il fallait que je raconte qu'on a eu notre petite dame qui venait voir un peu. On a eu aussi notre organisateur qui voulait absolument faire. On a eu notre homme politique, mais aussi notre routier sympa. Nos étudiants à Cannes, bref, des amis de là-bas si j'y suis, de tous les horizons, qui avaient envie de tchatcher et puis de boire un pot. Du fait qu'il y avait beaucoup de monde, le patron du bistrot nous a demandé de changer de jour. Alors, ça sera maintenant les premiers jeudis, au lieu du premier vendredi. Donc, la prochaine, ça sera le jeudi 2 février, à partir de 19h. À une prochaine. Allez, au revoir.
Moi, ce que je crois, c'est que On peut dire les Maoris, les Comoriens sont frères, c'est la même famille, ils ont la même religion, ils ont la même culture, etc. Si en métropole, vous avez cinq frères et sœurs et que vous avez un appartement F3 à Paris, que du jour au lendemain, vous avez vos cinq frères et sœurs, leurs gosses, la grand-mère et tout ça qui vient habiter chez vous, c'est ingérable.
Ah bon, comment ? Un clandestin, c'est quelqu'un ou quelque chose qu'on ne peut pas voir. Moi, je parle de Anjouanais, de Moëliens, de Grandes Comoriens qui arrivent à Mayotte aujourd'hui par quoi ça, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver. Le visa qui a été installé en 1995 est un mur de Berlin érigé entre Mayotte et le reste des îles Comores. Je trouve ça scandaleux.
Quoi ça, c'est tout.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Guy Ventil, Mayotte, un confetti explosif. Moi, le moment où j'ai pris le boutre pour venir ici, c'est pour chercher ma vie. Et j'ai pas encore gagné ma vie.
Est-ce qu'il y a la peur de se faire attraper? Est-ce qu'il y a la peur du gendarme, la peur de se faire expulser?
Moi? Non, j'ai pas peur de ça. Là, j'ai pas peur, puisque je sais, au moment où j'ai pas de papiers, là, peut-être demain, je serai arrêté. Et on va m'envoyer. J'ai pas peur de ça. Mais au moins, je vais vivre pour gagner le pain. Je vais vivre pour gagner le pain. Mais, j'ai pas peur. J'ai pas peur des gendarmes, j'ai pas peur des polices, j'ai pas peur de n'importe qui.
Pourquoi?
Parce que j'ai pris le risque de venir ici. Là, je dois pas avoir peur. Puisque j'ai pris le risque. Je dois lutter jusqu'au moment où j'aurai ce que j'ai besoin, ou bien au moment où je serai rattrapé par la police ou bien les gendarmes. Ouais. Il faut pas avoir peur de la mort. Puisque on va mourir. On va mourir. Donc aujourd'hui, je serai attrapé. Donc à quoi bon d'avoir peur? Non, j'ai pas peur. Non.
Tout pour être heureux. La nuit, les parfums de la nuit. Et la nuit au-dessus de nous, éclaboussée d'étoiles, on est dans un endroit merveilleux, végétation, manguiers, grands arbres, c'est superbe, dans une maison en bois, construite dans la forêt, magnifique. On boit un coup, on grignote, on est entre amis, absolument tout pour être heureux. Des endroits... comme ça, sur cette planète, il y en a quand même quelques-uns. Manque de chance. Il faut que des propos comme ceux qu'on entend là, qu'on vient d'entendre, gâchent un petit peu quand même ces moments délicieux et ces lieux absolument délicieux. On va quitter Mayotte aujourd'hui. Demain, on ira faire un tour avant de revenir en France, faire un tour encore dans les Comores. Mais la question reste entière. Ce que disait cet auditeur tout à l'heure sur le répondeur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Je pense d'ailleurs que on a beaucoup plus de questions à rapporter ici que de réponses. Même si quand même une certitude est que la réponse qui a été donnée par par Monsieur Barouin est sans doute la pire et la plus mauvaise. C'est-à-dire que il a réussi à réveiller les instincts les plus basiques, les plus racistes de la population en la confortant dans sa certitude que jeter dehors tous les clandestins résoudrait, comme par miracle, tous les problèmes, qu'ils soient d'ordre éducatif, sanitaire ou économique. Et il a été encore plus fort en proposant de réformer le droit fondamental du sol pour la collectivité territoriale de Mayotte. Et ce faisant, il a déclenché un concert nauséabond de louanges et de surenchères de la part d'une partie des élites mahoraises. Les mots que je vous dis là, je suis en train de les lire. Elles sont venues sous la plume d'une enseignante métropolitaine qui est à Mayotte et qui s'appelle Frédérique Hanoquin. Et c'est chez elle qu'on se trouve ce soir-là. À travers ces lignes, on voit que bon, bah, les enseignants qui sont là-bas ne servent pas à rien quand même. Ils s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux, ils s'engagent. C'est peut-être ça qu'on appelait les effets positifs de la colonisation. C'est peut-être ce genre de choses qu'il faut mettre en parallèle. En tout cas, c'est bien sûr la pire des réponses qui a été donnée. Cela dit, c'est vrai que la question est complexe, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une seule solution, et c'est sans doute la raison pour laquelle nous sommes encore là aujourd'hui à Mayotte sur ce petit confetti explosif.
Alala tsa sirijara kanja venza upashia repula nino zone mpia ribiri nazibari na zone mpia la unu vya lanzeri lomba duhua rilosoma politiki dunia jirani ya jasira sibabu kamira banarusi watuti ohombe wa mana Eo salama salmina fu
Bonjour, je m'appelle Fatima, je suis née en Jean, je grandis là-bas, je suis atterrissée à Mayotte depuis 93. Je suis la mère des enfants français. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, Mayotte, c'est petit pour accueillir tous les problèmes de nos îles, mais est-ce que tous les gens qui arrivent, ils amènent des problèmes, non? Certains viennent pour travailler, pour gagner leur vie honnêtement, parce qu'il n'y a pas de travail là-bas. Et on n'a pas le choix, en fait, de dépasser les frontières, c'est pas une partie des plaisirs. On ne peut pas mélanger tout le monde dans le même panier, en fait.
Mais pour toi, la situation a empiré à partir du moment où il y a ces déclarations de Darwin, à partir du moment où il y a eu ces déclarations sur Mayotte envahie par les clandestins.
Ouais, Mayotte envahie par les clandestins, c'était... Le ministre, elle a mis l'huile dans les champs, en fait. Elle a mis le feu dans l'huile, en fait.
Le feu dans l'île.
Et ça nous excitait les uns et les autres. Si on ne trouve pas la solution vite, ça peut dégénérer, c'est là où ça fait peur. Ça fait peur pour moi, parce que s'il y a le feu, il cherche pas que ça c'est une église ou ça c'est une mosquée, je l'attaque pas. Le feu, s'il attaque, il attaque partout.
Alors toi, ton inquiétude, c'est que ça pète, quoi. Moi, c'est qu'il y a des émeutes, c'est qu'il y a des explosions de violence ici, ouais, à Mayotte.
Moi, c'est ça qui me fait peur.
Mais alors de qui?
Les deux populations entre les Comoriens et les Maoris
Voilà. Et alors, t'as peur aussi qu'il y ait des explosions de violence de la part de Mahorais contre les clandestins?
Contre les clandestins qui n'entêtent pas. Toutes les mails qui passent à Mayotte, c'est les clandestins.
C'est eux qui sont responsables de tout?
C'est eux qui sont responsables de tout. Et à voir qu'il y en a qui sont donnés mal pour travailler, pour gagner leur vie honnêtement. Qu'on les traite pareil comme les uns et les autres. Ça finira pour péter un jour et l'autre. Ça, c'est sûr. Les victimes, ça sera dans les deux côtés. Si nos élus, ils nous montent les uns contre les autres, c'est là où ça va péter.
Moi, on m'appelle Salamé Abdou. Je suis né à la Grande Comore et je suis venu ici depuis mars 2000. Je ne travaille pas puisque je n'ai pas de papiers français. Je cherche des Mahorais qui me donnent leur terrain et puis j'ai fait du maraîcher pour que je puisse garder ma famille puisque j'ai une femme qui a deux petites filles. Donc on est là. Je travaille pas, ma femme ne travaille pas, donc nous vivons dans la misère. Ma femme est enceinte, on aura un petit bébé d'ici fin janvier, le plus tard c'est le 4 février. Et si ma femme est accouchée à Mamoudzou, il me faut 300 euros. Or, ma femme ne travaille pas, moi je ne travaille pas, je ne sais pas.
Parce que maintenant, depuis que la sécurité sociale a été instaurée, voilà, ça quelques mois.
Depuis le mois d'avril, oui. La mise en place de la sécurité sociale à Mayotte en avril.
Et depuis cette date-là?
Cette date-là, il faut payer 300 euros pour accoucher dans les maternités ici. Chose qui n'est pas facile pour les sans-papiers puisque la plupart ne travaillent pas.
Mais il faut payer 300 euros uniquement les sans-papiers.
Enfin, pour ceux qui ne sont pas assurés socialement.
Nous, la population, on est les victimes des systèmes. C'est des élus que leur politique devient un échec. Alors, ils essaient un moyen de provoquer les Mahorais, de réagir, parce qu'ils savent que ça, c'est là où ça fait mal. Ils tapent là où ça fait mal. Ils disent, les Mahorais, dans quelques temps, vous serez plus chez vous. Il faut réagir, parce qu'ils savent que c'est ce que veulent les Mahorais. Ils veulent se sentir chez eux. Alors, si tu pousses quelqu'un à faire la violence, il va le faire. Et pour ces élus-là, ils cherchent juste à protéger leur politique. Parce que les clandestins qui bossent à Mayotte, ils travaillent dans le champ, ils construisent les maisons, ce sont des consommateurs aussi. Ils ne font pas que la merde.
Alors concernant cette histoire de remise en question du droit du sol, le droit du sol ne doit pas être un tabou, nous a-t-on dit. Le ministre entend, envisage-t-il encore, on ne sait pas. En tous les cas, il entend restreindre l'accession à la nationalité française à la naissance dans, je cite, « certaines collectivités d'outre-mer ». Alors, il faut quand même savoir qu'en matière de droit du sol, droit du sang, les choses, c'est des notions assez vagues, c'est des choses qui nous semblent aller d'elles-mêmes. Il faut rappeler que le droit français n'a jamais consacré le droit du sol intégral qui se pratique ailleurs, par exemple aux États-Unis d'Amérique. Notre pays connaît le double droit du sol, c'est-à-dire est français à la naissance l'enfant d'un étranger lui-même né en France. Mais le fait d'être né en France, de parents étrangers, n'ouvre l'accès à la nationalité française qu'à partir d'un certain âge, autour de 13 ans, et à certaines conditions, comme la durée du séjour sur le territoire français. Donc, il est fallacieux de laisser croire que les enfants nés sur le sol français sont automatiquement français. On voit bien qu'à travers ces déclarations, qu'on le veuille ou non, que ce soit calculé ou non, eh bien, on chasse bel et bien sur les terres du Front National, on suscite l'indignation, on flatte les instincts xénophobes, on attise les fantasmes d'invasion et on stigmatise les populations démunies.
Alors là, on va rencontrer un personnage important et imposant de Mayotte, incontournable. Il s'appelle Michel Taillefer. Michel Taillefer, c'est le tout récent président du MEDEF de Mayotte. Ça fait quelques mois qu'il est président du MEDEF. Il dirige une entreprise de sécurité, alarme, télésurveillance et gardiennage qui s'appelle Sandragon, une société très importante à Mayotte. Et il est leader absolu dans l'île sur ce marché, peut-être parce que il est aussi ex-directeur de l'antenne locale des renseignements généraux. C'est possible. Et en tout cas, pour beaucoup d'observateurs, il est présenté comme le vrai patron ou l'un des vrais patrons de l'île, avec son allié et ami, le député UMP de Mayotte, Mansour Kamardine. Rencontre avec Michel Taillefer.
Le Maoré est très très gentil. Les seules atteintes dont sont victimes dont peut être victime la population, ce sont des atteintes aux biens. Ça va du larcin jusqu'au cambriolage, donc partiel des maisons. Je reprendrai l'image de l'ascenseur. Quand à l'époque j'étais en école, quand vous prenez l'ascenseur, vous êtes seul, vous vous mettez au milieu de l'ascenseur, vous êtes deux, vous vous mettez chacun dans un coin, vous êtes quatre, et puis il arrive un moment où vous avez un sentiment d'insécurité. Je crois que l'île est très petite, elle fait 374 km², et si vous voulez, la population est passée de 1975 à 45 000 habitants, à peu près 180 000 répertoriés aujourd'hui, peut-être plus. Donc, ça devient difficilement supportable.
Alors, on a vu en septembre des manifs violentes, une succession de manifs violentes, y compris des manifs organisés contre les clandestins, avec des déclarations qui étaient franchement xénophobes. Où on en est maintenant, aujourd'hui ?
D'abord, il n'y a pas eu de manifestation contre les clandestins. Il y a eu, à la suite d'un mouvement des clandestins, il y a eu un rassemblement donc des Maorés sur la place du marché à Mamoudzou. Il n'y a pas eu d'appel xénophobe. Il a bien été précisé au cours de cette rencontre que les étrangers en situation régulière contribuent au développement économique et social de Mayotte, donc il n'était pas question de remettre en cause leur présence ici. J'en ai dans mon entreprise, donc ce sont des gens qui sont arrivés ici, qui sont réguliers, qui sont mariés, des fois avec des Mahoraises, des fois avec d'autres ressortissants de nationalité française. Ils travaillent, ils paient leurs impôts, ils se tiennent normalement, donc ça pose pas de problème. Simplement, ce qui gênait les gens, c'était cet apport massif d'immigration clandestine qui sont inutiles à Mayotte. Ce sont des gens qui viennent, qui commettent des actes de délinquance et qui ne sont là que pour ça. La maison d'arrêt de Mamoudzou, à peu près 80% d'étrangers.
Bonjour, droit du sol, droit du sang. Il n'y a plus de tabou quand il y a des abus. Le ministre de l'Outre-mer veut revoir le droit du sol dans les territoires d'outre-mer où des étrangères viennent accoucher pour que leurs enfants soient français. France Inter. François Baroin déclenche une belle polémique en s'interrogeant sur le droit du sol. Il le savait d'ailleurs, le ministre de l'Outre-mer, que ses propos allaient faire réagir. Pourquoi ne pas remettre en cause dans certains territoires d'outre-mer ce droit du sol qui entraîne des abus ? Propos qu'il répète hier sur Radio France Outre-mer, exemple à l'appui, écoutez.
Quand vous avez sur un petit territoire, je prends Mayotte, plus de 30% d'une population qui est d'origine clandestine, et quand vous voyez cette statistique, plus dans une maternité où les femmes arrivent enceintes et de manière clandestine, et qu'ensuite on sait qu'il y a des filières qui existent avec l'achat de paternité fictive, eh bien, ne pas poser la question ne serait, de mon point de vue, en tant que ministre de l'Outre-mer, une faute professionnelle.
Personnellement, je suis d'accord avec ce qu'a dit le ministre Baroin, à savoir que dans certains cas, il ne s'agit pas de remettre en cause le droit du sol, mais dans certains cas, peut-être qu'il peut être adapté, puisque on sait ici que des gens font des enfants pour que les enfants aient des papiers et qu'ils deviennent français. Si moi, je suis originaire de l'Aveyron par mon père. Si demain, chez moi, à Millau, 70% ou 80% des enfants qui naissent dans l'année étaient des enfants étrangers qui venaient pour avoir des papiers, etc. Peut-être, ou si ça se passait en Corrèze ou dans l'Ain, peut-être les gens réagiraient différemment. Ils ne sont pas conscients du problème. Donc, mais ici, il y a réellement un problème. Alors, il faut trouver une solution pour que les populations restent fixées chez elles. Alors, d'une part, à développer la santé, les moyens pour lutter là-bas contre les maladies, les assister aussi pour l'éducation, et puis peut-être aussi faciliter l'achat de leur production agricole. C'est une des solutions, c'est pas la seule solution. Il faudrait les aider à se développer aussi au point de vue économique. Moi, ce que je crois, c'est que on peut dire les Maoris, les Comoriens sont frères, c'est la même famille, ils ont la même religion, ils ont la même culture, etc. Si en métropole, vous avez 5 frères et sœurs et que vous avez un appartement F3 à Paris, que du jour au lendemain, vous avez vos 5 frères et sœurs, leurs gosses, la grand-mère et tout ça qui vient habiter chez vous, c'est ingérable. Je crois qu'il faut prendre des images comme le font les gens en Afrique. Nous avons choisi ici à Mayotte une maison, c'est la maison France. Ils ont choisi à un moment donné l'indépendance. Ils ont dit aux Maoris, vous allez être l'esclave des Blancs. Eh bien, les Maoris ont choisi. Et eux ont choisi l'indépendance. Et aujourd'hui, on ne peut pas dans notre maison recevoir 575 000 habitants. Mayotte est trop petite. De vous à moi, vous êtes un vieux baroudeur. Vous croyez que si on faisait des consultations libres en Afrique, un certain nombre de pays africains ne voudraient pas revenir dans le giron de la France? Quand vous allez dans le Badjini, en Grande Comore, quand vous allez en Juan, beaucoup de jeunes maintenant ne veulent plus, c'est un peu le problème en métropole, ne veulent plus transpirer, se blesser pour travailler la terre. Je pense que, de toute manière, l'État français Providence, qui accueillerait toute la misère du monde, comme on disait tout à l'heure, c'est fini maintenant. Et il faut qu'ils se mettent au boulot.
Comment vous allez faire pour les empêcher d'avoir envie de venir quand ils sont effectivement dans ce dénuement, quand en plus il y a cette, quand on est en jouant, le soir on voit une lueur qui est l'horizon, qui est le lendemain qui chante, qui est l'Eldorado.
Moi je pense que ça va se régler tout seul, parce qu'ils aiment leur pays, ils aiment leur île chacun. Si vous quittez votre île, que vous arrivez ici dans un soi-disant Eldorado, que vous n'avez pas de travail, que vous habitez dans des conditions encore plus exécrables que chez vous, et puis que vous soyez obligé qu'on vous demande d'aller voler pour survivre, etc. Vous savez, d'eux-mêmes, je pense qu'ils essaieront de trouver des solutions.
Alors, on dit que le ministre de l'Intérieur a demandé 12 000 reconduites à la frontière. Il a demandé ce quota-là.
Ah ben écoutez, vous m'apprenez l'information.
Ça vous semble réalisable?
Oui, je pense. Je pense que c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique.
Mais ça va être un sacré boulot, hein, pour ramener autant de monde qui, une fois arrivé là-bas, va revenir. Enfin, c'est une situation...
Oui, vous allez me dire, c'est le tourneau des Danaïdes. Mais si nous ne faisons rien, l'État aura une situation beaucoup plus difficile à gérer. Parce qu'à ce moment-là, ça sera des ghettos. On vient de vivre en métropole, vous avez été spectateur de ce qui s'est passé dernièrement, on risquerait d'avoir ça ici. Et malheureusement, à 10 000 km de la métropole, vous imaginez ce que ça pourrait être.
Alopas, já que vieram fraque. Zilete ni bazar vale, zilete samaro. Zilete ni bazar vale, zilete samaro. India capitali atari chance vale. Alopas, e já que vieram fraque. Ganta ni rasgas kaseni. Chubis, watu valeu. Capitaliza ya tama, tama ore waja ya tama. Capitaliza ya tama, tama ore waja ya tama. Vano kamori na watama, na doma na kawasi na mwana. Aloza na Zileti ni bazari pale, zileti tama wongo. Aloza Zileti ni bazari pale. Capitaliza ya toto, amore waja ya toto. Kapoka na karatasi, banuka mwesisi na kukoto.
A
Alors, pour conclure, on reste un peu aussi à Anjouan, dans, je rappelle, dans une des îles des Comores, et on retrouve Aboulatif Mohamed, qui est un militant de la, l'association de droits de l'homme d'Anjouan, Comores, et vous allez voir comment il arrive, malgré tout, par des chemins tout à fait détournés, avec une sensibilité sensiblement différente que celle qui vient de, d'être entendue, à peu près aux mêmes conclusions.
Mayotte est devenue un Dolorado. Vu l'instabilité politique permanente aux Comores, vu la dictature qui est aux Comores, vu la situation socio-économique qui est aux Comores, les gens ils sont obligés de s'exiler à Mayotte pour vivre. Moi, je pense que ce n'est pas la peine d'avoir des vedettes, des radars pour satisfaire aux Maorais que voilà, la France va chasser leurs frères à Mayotte. Moi, je crois que ce n'est pas indigne, mais je crois que ce n'est pas la solution, cette campagne de xénophobie.
Bernard, qu'est-ce que tu as pensé de la déclaration de Barouin concernant la restriction sur le droit du sol?
Mais le droit du sol, c'est une loi républicaine. Mais aujourd'hui, il y a même des Maoris qui n'ont pas de papier. Ils ne sont même pas enregistrés à la mairie.
Alors, on m'a dit que le système avec les passeurs, les pilotes, etc., conduisait à remplir aussi les poches de certaines personnes du gouvernement et de leurs proches. Est-ce que c'est vrai, ça?
C'est pas les gens propres du gouvernement, c'est peut-être des amis. Vous savez, ça vous a fait très bien que entre la traversée de Mayotte, c'est un trafic. Et le trafic, il y a toujours à gagner. Et entre la traversée, c'est un cimetière qui est là. Il y a au moins plus de 6000 morts. Vous imaginez ça, un petit pays comme le Comore?
Qui oui. Visa depuis 95, le visa Balladur.
Le visa de la Balladur. Il y a des familles qui sont disparues, complètement. C'est une épidémie. C'est plus que le sida qu'on a eu au Comore. C'est très grave, cette situation. Moi, je pense que la commission parlementaire de France, il doit quand même prendre en compte ça. Parce que c'est la vie humaine qui est en danger. Et les gens sont obligés de prendre de quoi ça, même des malades, mais ils sont obligés d'aller à Mayotte pour se soigner. Parce qu'à l'hôpital d'Ombo, ou à l'hôpital d'El Maroufa Moroni, mais il manque beaucoup de spécialistes. Mais c'est un cimetière qui est là. Moi, je sais des gens qui ils avaient des problèmes de santé, et en pleine route, ils ont craqué, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la mer. Mais tant que vous verrez qu'en juin, il y a une stabilité politique, une bonne gouvernance, les gens travaillent, ils vont à l'école, personne n'ira à Mayotte. Qu'est-ce qu'il va chercher à Mayotte?
Enfin, tout ça provient de cette inégalité croissante entre vous, ici, à Anjouan et Mayotte. Il y a une différence de 1 à 10 en termes de niveau.
Mais c'est vrai, il y a une différence. C'est pour cela que ces gens-là, ils n'ont pas de problème. Il y a une expression, ils sont nourris, logés, soignés. Ils n'ont pas de soucis. Leurs enfants vont à l'école. Il y a un Eldorado là-bas. C'est la terre promise. Les gens vont chercher à manger, à se soigner, à travailler. Mais le problème, c'est que le gouvernement français, c'est pas les Maorais. Les Maorais, ils sont dans l'assistanat. Ils attendent que la France lui donne à manger. Point très, il n'y a rien du tout. Parce qu'ils sont dentifrissés.
Dentifrissés.
Et c'est une expression. Ils n'ont pas de soucis. Ils ont tout. Et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui vient chez toi, qui va manger ta part. Hein? Il faut pas même un chien. S'il y a un morceau de viande, il y a un autre chien qui vient. Il va le chasser. C'est logique. Mais vous verrez que la France, ici, tout le monde, ils sont francophiles. Tout le monde aime les Français ici. Au Comore, surtout en juin, les gens, ils ont hissé les drapeaux français pour demander à la France de retourner. C'est impossible. Vous verrez personne qui va vous dire un mot qui va vous choquer. Par contre, à Mayotte, les gens sont indisciplinés. Il faut voir les Maorais. Si les Maorais, ils sont en train d'insulter les Anjouanais, mais demain, s'ils n'ont pas à manger, ils vont insulter les Français. Mais c'est une question d'intérêt qu'il y a à Mayotte.
Et c'est pas une question d'amour de la patrie.
Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Et pourquoi ils tiennent à la France, c'est ça? Je crois pas qu'ils sont vraiment français à Kerouver, parce qu'il y a des avantages, il y a des intérêts qui sont là. Ils sont achetés par la France.
Pourquoi t'es resté ici, toi?
Moi, je suis resté parce que je suis fidèle à mon pays. J'aime mon pays. Même là, il y a la misère, j'aime mon pays. Et j'espère que ça changera un jour.
Indépendance, il y a Comore, ça a rien coupé à l'île.
si wa ya tu manu yo na si jamwali ma wogore suwa ani
si jamwali ma wogore suwa
na si wa ya tu manu na si jamwali ma wogore suwa ani oh well le wo si ja aje Ramo kwaye ma wore le wo si ja aje Ramo kwane tuwa ani Oh yes Rasta Maranza bebe eru la si ma yala we O fikira za womani la se marihi la ane
Je m'appelle Mohamed Kamal.
Je
suis de la Grande Comore. Ça fait 10 ans en fait que je suis que je vis à Mayotte. Il faut savoir que quand je suis arrivé ici pour la première fois il y a une dizaine d'années, les Maorés dormaient dans des maisons en torchis quoi.
Usijunona huno mbaya wa mikilandiste ni tisina shuwabe la dhimuli li, la dhimuli libe nyumbaya watu, la dhimuli libe maje watu, la dhimuli libe mwengi nusifanya alfu thalathini
aujourd'hui nous avons construit la maison de ces gens là ils dorment dans des maisons confortables en nous ayant payé moitié prix que ce qui était prévu au départ et aujourd'hui ils nous prennent pour des moncoriens
la sirahi abasa kartujua uangadui wa komori na malezo tutungoza vira hali hali izu kartujua hali wazungu wa kuruma wa tuwadu ma esklavu abasa ilawa
Autrefois, c'était les Blancs qui avaient comme esclaves des Noirs. Aujourd'hui, malheureusement, la situation est différente.
Aujourd'hui, c'est des Noirs qui ont des Noirs comme ça. Fatima a parlé de la colère qui grandit. Pourquoi on est monté d'un cran dans la chasse aux clandestins, d'après toi ?
Mais
c'est un problème politique, il faut ouvrir les yeux.
J'ai voté ça ma ici il faut faire taratibu na mamera il faut faire taratibu mana maoro mutsa o mutsa voté oro ngoma ntulo ma clandestin
il est en train le député est en train de caresser les maoris dans le sens du poil il est en train de d'utiliser les haines etc pour se faire élire
mais rawashikungu akahia ba wa mjibu mansuri ba wa mjemba ilazimu mtu ya jabanu zomba untimwizi emwizi ya beleho usimwizi ka yalishwe au ya par taratibu ya pare ma karatasi yahe Nibuya rungwa stuzi ili kainrabu bulwa wae. Dei makomori wa kakungu. Dei waremelua milango alfajir. Arungwa stu ile RFO ku alfajiri. Apoesir kane ni ingi ya babu.
Il faut se souvenir de l'intervention du maire de Kungu faisant une réponse au député Kamardine disant à Mansour Kamardine il faut faire la différence entre ceux qui cassent et ceux qui sont là tranquillement qui ne font que chercher leur vie. Et imaginez ce qui s'est passé le lendemain de l'intervention du maire de Kungu. La police a fait une descente à Kungu pour aller attaquer les Comoriens de Kungu et faire des rafles, quoi, en fait. C'est ça la réponse de l'État français ici.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu des choses quand même assez inacceptables, pour tout dire. À l'automne dernier, à Mayotte, on a vu des élus enroulés dans leur ceinture tricolore, hurler enjoinés dehors. On a vu prendre des arrêtés municipaux pour ficher tous les clandestins, ainsi que ceux qui les hébergent. On a entendu le vice-président du Conseil économique et social de Mayotte déclarer, je cite, « Si être raciste et extrémiste, c'est vouloir sauvegarder sa souveraineté, avoir la paix chez soi ou être respecté, alors je le suis, raciste et fier de l'être », on a quand même poussé le bouchon un peu loin. Et c'est vrai que la majorité, la quasi-totalité des maires de Mayotte sont alignés sur cette ligne dure, on va dire. Sauf effectivement le maire de Kungu, qui s'appelle Saïda Hamadi, et qui est surnommé Raos par, je ne sais pas pour quelle raison, en tous les cas c'est un de ses surnoms, mais en tous les cas c'est Saïda Hamadi, maire de Kungu, que nous rencontrons maintenant.
Merci.
Alors comment je vais vous appeler, monsieur le maire?
C'est Damadi.
Salut Damadi.
Maire de Congo.
Le ouais. Maire de Congo.
Voilà.
Voilà. Pendant que j'étais en train de régler mon petit appareil, là, vous étiez en train de dire, off, je préfère dans ma commune avoir des clandestins que des expatriés.
Je dis, je préfère avoir des enjoinés, des grands comoriens et des moéliens dans ma commune qui ont, avec la population majoritaire de la commune de Congo, les mêmes caractéristiques socioculturelles que des métropolitains cloîtrés dans leur lotissement privé et qui veulent transposer leur commune métropolitaine à Mayotte alors qu'on n'est pas à ce niveau au jour d'aujourd'hui.
C'est étonnant quand on arrive chez vous parce que là on est sur les hauteurs et on a des très beaux pavillons où habitent les expatriés, où habitent les gens qui viennent de la métropole, et puis ils ont une vue imprenable sur un bidonville en bas, en dessous d'eux. C'est-à-dire qu'on se disait en arrivant, si on cherchait à illustrer dominant, dominé, on a une photo parfaite.
Très bien. Donc vous avez résumé la situation. Le premier des dominateurs, c'est le préfet de Mayotte.
Ah.
Quelle que soit sa couleur politique. Et à ce dominateur s'ajoutent naturellement les fonctionnaires qui sont à sa charge. Et puis les dominés, c'est tous les Mahorais, les petits fonctionnaires et les autres. À partir de ce moment-là, effectivement, le préfet ainsi que les autres fonctionnaires de l'État, quel que soit leur secteur d'activité, habitent sur les hauteurs. Et les Mahorais, quelle que soit leur fonction, habitent dans la vallée.
Est-ce que vous êtes en train de décrire, là, monsieur le maire, c'est une situation coloniale. Et quand vous dites préfet, moi j'entends gouverneur.
Tout à fait, c'est le mot qui est employé ici juridiquement, c'est le mot préfet. Mais quand on parle de préfet, c'est un représentant de l'État. Le gouverneur, c'est un représentant de l'État, mais dans un système ancien, la colonisation. Et effectivement, depuis 77... nous sommes dans le prolongement d'une colonisation qui ne veut pas dire son nom. Il n'y a pas de liberté d'expression à Mayotte, il n'y a pas de liberté de mouvement comme nous l'avons en France.
Alors, Kungu, 30 000 habitants, combien de clandestins?
Il n'y a pas de clandestins à Kungu.
Ah bon?
Ah bon, comment? Un clandestin, c'est quelqu'un ou quelque chose qu'on ne peut pas voir. Moi, je parle de enjoiné, de Moéliens, de grands Comoriens qui arrivent à Mayotte aujourd'hui par Kwasa, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver. Le visa qui a été installé en 1995 est un mur de Berlin érigé entre Mayotte et le reste des îles Comores. Je trouve ça scandaleux. Or, c'est à partir de 1995 que la question de l'entrée massive à Mayotte des enjoinés, des grands comoriens, des moéliens, des malgaches, se fait ressentir. Le visa qui devait régler l'affaire n'est plus la panacée. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a donné des gages qu'il va falloir refouler 12 000 personnes chaque année. Donc, une rotation du bateau Maria Galanta, 5 rotations par jour. Donc, on en arriverait en 5 ans à éradiquer tous les soi-disant clandestins qui sont tout simplement des nouveaux arrivants sur le territoire de Mayotte. Dans la commune de Congo, je ne vois pas de clandestins, je vois des administrés qui sont tous noirs, qui subissent la loi des métropolitains. C'est tout.
Il y a un petit là qui est en train de dormir pendant ce temps-là dans les bras de son papa.
Rachadi.
Rachadi, il a quel âge?
3 ans.
Il comprend ça ou pas?
Pas encore.
Pas encore?
Ouais.
Mais tu vas devoir lui expliquer un jour ça.
Ouais. Son best conseil, puis à Nazona. Voilà.
Je lui raconterai un petit peu les difficultés que j'ai rencontrées, comme ça il pourra mieux se cacher, se défendre.
Maintenant, la canne se va chez onjorengwa ndemwashe ni watwatsona na watsorongwa mbamimwidzi ni tsahiba tsarava welo amishore mwashe ni ivashwetu leo wakati tsoko ne marki yangu tsiritsi nwe biyangu tsipashia vavo kavasi ndatsorongwa mbavali wa mimi tsidi au tsirava biya shakfona mtare mwashe ni vavo tujuru.
Moi, ça m'embête, ça me gênerait beaucoup qu'on m'expulse parce que tout le monde verrait qu'on me mette les menottes aux mains, aux poignets, etc. Et on me prendrait pour un voleur alors que je n'ai jamais volé personne. J'aimerais en revanche partir de mes propres moyens. Là, je sais que je rentre chez moi la tête haute, en fait.
Là, il est envie d'aller coucher, là, le petit, il est en train de se tortiller dans les bras. C'est vrai qu'il est tard, la nuit est... Plein d'étoiles et c'est l'heure d'aller le mettre au lit, là, le petit. Malaba. Sheritina nyumba zaitole akana lese tebango mawadi oh oya yenye tebango mawadi
ndoma tabana matamari
Merci à Fatima, Abdou, Ahmed, Rachadi et ses parents. Merci à Kamal, Issaf et Mohamada. Merci à Frédéric et Frédéric Hanequin. Merci à Saïda Hamadi, Michel Taifer et Kamal Ali Yaouda. Traduction Nassuf Djellani. À aller écouter, ça c'est un conseil de Pascal Pascariello. À aller écouter, dans le cadre d'une série de rencontres autour du thème des chemins de la démocratie en Afrique, une conférence organisée sur les royaumes et empires africains, un héritage toujours vivant, animé par Anne-Cécile Robert et présenté par Elikia Mbokolo, jeudi 19 janvier de 18h à 20h, dans l'amphithéâtre de la Société en géographie, de géographie, 184 boulevard Saint-Germain, 75 006 Paris. Il y a des émissions de radio qui vous incitent à aller au Zénith ou à l'Olympia. Nous, on vous invite quand même sur des conférences très très pointues et très particulières. C'est là-bas que je suis et toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas que je suis. Cela dit, s'intéresser au royaume et empire africain, c'est s'intéresser à quelque chose d'essentiel. Technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Julien Chabassu. C'est Antoine Chao, Yann Chouquet et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello et Christophe Humbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.